C'est en lisant les livres qui plaisent aux jeunes actuellement que j'ai découvert que la littérature fantastique, en particulier à partir d'Harry Potter, devenait un phénomène qui n'était pas mineur. Beaucoup de jeunes qui ne lisaient plus ont redécouvert le goût de la lecture. Mais en lisant ce genre de livre, je me suis rendu compte que parfois c'était ambigu. La place du bien, du mal, l'utilisation de la magie, des forces plus ou moins occultes. Et plutôt que de faire un discours sur le sujet, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre fantastique, mais dont les valeurs seraient peut-être mieux posées, ou en tout cas inspirées de la foi chrétienne. Et je vais vous dire pourquoi j'ai écrit sur les anges. Voulant écrire des romans fantastiques, ça me semblait important de pouvoir découvrir dans la révélation quels étaient les éléments qui pourraient être un petit peu comme des intermédiaires entre notre monde qui ne connaît pas forcément ni le Christ ni la foi chrétienne et qui peut quand même être entendu. Et c'est vrai que les anges sont ces êtres un peu mystérieux qui font partie du créé, qui malheureusement sont mis à toutes les sauces. Souvent on voit les anges dans la littérature ésotérique par exemple. Et donc il me semblait important à la fois de pouvoir m'en servir parce qu'ils étaient une bonne porte d'entrée dans la littérature fantastique, tout en essayant de leur redonner leur vraie place.
Alors, on sait que, étymologiquement, ange veut dire messager, et c'est souvent en tant que tel qu'ils apparaissent dans les Écritures saintes. Mais il y a une part de mystère autour de ces créatures de Dieu qui alimentent bien souvent les fantasmes. Alors, les anges, qui sont-ils vraiment ?
Effectivement, le mot ange, qui signifie envoyé, sont d'abord des purs esprits qui font partie du créé, au même titre que sont les hommes. Et même si on ne les voit pas, ils existent, ils font bien partie de la révélation, et leur mission est double. C'est celle, en tout cas, que Dieu leur a attribuée, à savoir une mission d'abord d'adoration. Ce sont des adorateurs de Dieu. Et en même temps, ils sont à nos côtés, en particulier ceux qu'on appelle les anges gardiens. Tous ne sont pas des anges gardiens, mais chaque homme, lorsqu'il naît, un ange lui est attribué pour l'accompagner, une sorte de présence, d'ombre, on pourrait dire, de Dieu qui est aux côtés des hommes. Mais il n'y a pas que les hommes qui ont des anges. Je pense par exemple à un pays, on le voit bien à Fatima, lorsque l'ange du Portugal se révèle aux petits-enfants, avant l'apparition de la Vierge, on voit bien qu'un pays, une famille ou quelque chose de nouveau est associé à un ange qui est une sorte de présence de Dieu, discrète certes, mais en tout cas réel auprès du monde créé.
Et disons, l'Église parle des anges gardiens, de tel ou de tel ange, etc. Mais qu'est-ce qui vient de la parole de Dieu ?
Les anges gardiens, en soi, appartiennent plus à ce qu'on appelle la tradition, même si on trouve d'abord dans l'Évangile Jésus qui fait allusion à ces anges qui montent et qui descendent, qui sont proches de nous, etc. L'Église, après, a donné ce terme d'ange gardien, qui n'est pas à proprement parler d'origine biblique. Mais s'il fallait retirer la place des anges dans l'Écriture, j'allais dire, l'Écriture fondrait d'un seul coup, parce qu'ils sont presque omniprésents. C'est toujours très étrange, parce que les anges sont à la fois extrêmement discrets, ce sont des êtres qui finalement en brillent un petit peu par leur délicatesse, et en même temps, ils sont omniprésents dans l'Écriture. Nous voyons bien, et parmi ces anges, il y a des anges fameux, d'abord ceux qu'on appelle les archanges, l'ange Gabriel, qu'on trouve aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et puis aussi, je pense au livre de Tobie, qui m'a beaucoup inspiré dans l'écriture de La Porte des Anges. C'est l'ange Raphaël, qui est envoyé, qui accompagne, et on ne découvre qu'à la fin d'ailleurs que c'est un ange. D'ailleurs, Tobie s'étonne en disant « mais je t'ai vu manger, je t'ai vu boire ». Il disait « je l'avais fait exprès parce que je devais cacher ma nature angélique, mais je suis l'ange Raphaël ». C'est un texte, bien sûr qu'il faut lire de manière extrêmement symbolique, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais en tout cas qui dit des choses très très belles sur les anges et particulièrement sur Raphaël qui est l'ange guérisseur, l'ange de la guérison.
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains and the mountains in reply.
L'Église met quand même en garde contre tout culte donné aux anges, parce que le risque de tomber dans des pratiques occultes ou ésotériques, lui, est bien réel.
Bien oui, c'est un peu le problème. Les anges font vraiment partie de la révélation. L'Église n'est pas contre le culte des anges. Il est contre, j'allais dire, l'utilisation un petit peu frauduleuse de ce monde invisible qui, malheureusement, parce qu'il suscite quelques fantasmes, quelques visions parfois qui sont plus ou moins frelatées, ont été récupérées d'une certaine manière par les ésotéros. occultisme par tous les pratiquants du New Age ou d'autres, finalement comme des sortes d'êtres mystérieux qui nous entouraient. Je vois par exemple dans la littérature fantastique de jeunesse aujourd'hui, il y a énormément de livres qui s'appuient sur les anges. C'est très à la mode actuellement, mais il ne s'agit pas des anges tels que la Bible nous les révèle.
Le thème du bien et du mal revient beaucoup dans votre tétralogie. Et alors là, effectivement, il y a aussi ces anges du bien et ces anges du mal.
Alors d'abord, la lutte du bien contre le mal, c'est typique de toute la littérature, à la fois fantasy et fantastique. On le voit bien, et il y a des grands ancêtres, en particulier, je pense, Tolkien, avec le Seigneur des Anneaux, mais aussi Lewis, avec Narnia. Et c'est toujours cette grande question, une question un peu fondamentale du bien contre le mal. Et les anges aussi font partie de ces êtres qui sont des créatures, qui ont une personnalité, qui ne sont pas des êtres dénués de vitalité et de personnalité. Et il peut y avoir, lorsqu'un ange est créé, pour lui, le choix de suivre Dieu, ce pourquoi il est créé, mais un peu comme nous également, parce qu'il est face à sa liberté, il peut refuser Dieu. Et ces anges, ce qu'on appelle les anges déchus, ou les démons, dont le chef de file est Satan, font aussi partie de ces êtres spirituels du monde invisible, tel que nous le disons dans notre credo, hein. Nous croyons au monde visible et invisible, mais effectivement, représentent la partie de ces anges renégats, qui tentent les hommes dans leur amour de Dieu, et qui veulent les attirer également à leur perte.
Comment faire cette distinction entre les anges du bien et les anges du mal?
Il faut être très clair. Les anges, tels qu'on les décrit sous ce mot-là, il n'y a jamais d'ange du mal. Le mot ange, eh bien, ce sont ces créatures qui sont du côté de la lumière. Les anges déchus ne sont plus des anges, d'une certaine manière. Ils sont toujours des créatures spirituelles, mais leur nom, c'est démon. Et là aussi, la Bible en révèle quelques noms, que ce soit Belzéboul ou d'autres noms tels que celui-là, également définis par ce qu'ils font. Je pense par exemple au mot diable, le chef de file, j'allais dire, de ces anges déchus. Diabolos, qui veut dire celui qui sépare, celui qui crée des obstacles. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn king.